Culture, sans oser le demander, Géraldine Mosna-Savoie.
Il y a des choses comme ça que l'on connaît sans le savoir. Des chansons, des musiques, des films, des séries, une esthétique qui nous est devenue familière sans qu'on s'en soit vraiment rendu compte. Comme par exemple, cette chanson. Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais elle vous dit quelque chose. Il en est de ces phénomènes qui, parce qu'ils sont justement des phénomènes, font désormais partie de notre environnement. Et il en est de même de la K-pop, cette pop culture venue de la Corée du Sud. Et aujourd'hui, pour parler de K-pop, deux invités, bonjour à vous deux. Sylvie Octobre, vous êtes sociologue chargée de recherche au ministère de la Culture. Bonjour, bienvenue. Vincenzo Cicchelli, c'est ça ? Bon, je dis bien. Vous êtes sociologue, maître de conférence à l'université Paris-Cité. Et tous les deux, vous êtes les auteurs de K-pop, Soft Power et Culture Globale, paru aux éditions PUF. Qu'est-ce qu'on est en train d'écouter ? Qui me dit ?
Alors, vous étiez en train d'écouter une chanson très célèbre d'un groupe BTS. C'est sept jeunes gens qui sont probablement un des groupes les plus célèbres au monde actuellement, avec le plus grand nombre de followers, le plus grand nombre de récompenses et le plus grand nombre de disques vendus. Et la chanson, c'était Dynamite, qui est une ode en fait à la beauté d'être soi dans un temps compliqué, parce que c'est une chanson qui est sortie pendant la pandémie.
Comment vous en êtes venus tous les deux à vous intéresser à ce genre de musique, et on va le voir quand même à ce phénomène beaucoup plus global de pop qui ne comprend pas que de la musique. Vincenzo Cicchelli.
En fait, c'est très simple. Je suis arrivé grâce à Sylvie, et Sylvie est arrivée grâce à sa fille, à une adolescente qui avait commencé à écouter justement de la K-pop, BTS et d'autres. Et sa maman, qui est très à l'affût des nouveautés, des changements de goût, a essayé de comprendre un peu le phénomène. Et c'est grâce à ça que moi, j'ai pu connaître. Mais peut-être que Sylvie veut raconter un peu l'histoire.
Oui, rapidement, en fait, on avait travaillé, Vincenzo et moi, sur ce qu'on avait appelé le cosmopolitisme esthétique, c'est-à-dire le fait que de plus en plus des références culturelles des jeunes viennent de l'étranger et que ça transforme leur rapport au monde. Pour faire vite, la génération des cinquantenaires auxquels on appartient regardait le monde centré sur l'Europe et puis en regardant du côté des États-Unis et du monde anglo-saxon. Les choses sont un peu plus compliquées et beaucoup plus multipolaires quand il s'agit des jeunes. Et c'est de ça sur quoi on essayait de s'attarder. Et puis, comme Vincenzo vient de le dire, moi, j'avais la vie s'en mêle, d'une certaine manière.
Et votre fille aussi.
Voilà, et elle a bien fait. En fait, à l'époque, j'étais une mère qui n'y connaissait rien, qui était une mère ennuyeuse, qui lui rappelait des choses ennuyantes et entrait au rangement de sa chambre et à la scolarité.
Alors que maintenant, vous connaissez par cœur les paroles de la chanson, puisque je vous ai vu chantonner.
Elle les connaît quand même nettement mieux que moi, mais ça, on y reviendra, comme beaucoup, beaucoup de fans, en fait, qui se mettent à apprendre le coréen avec une grande facilité, ce que moi, j'essaye de faire avec beaucoup de difficultés, il faut bien le reconnaître. Bon, bref, et un jour, je vous raconte la fin de l'histoire. Elle me fait lui promettre de l'emmener à un concert de BTS. À l'époque, je ne connaissais pas BTS et j'aurais prononcé BTS, parce que je pensais que c'était un tout petit groupe de rien et je savais même pas que ça existait. Et là, mes difficultés ont commencé parce qu'il a été complexe de trouver des places, que les places étaient chères. Je me retrouve dans une salle de concert pleine de jeunes de toutes les couleurs de la France.
C'était à peu près en quelle année ?
2018. À Bercy, plein. Et j'y allais, je dois reconnaître, en traînant les pieds, parce que j'avais fait avec elle Justin Bieber, Selena Gomez, qui m'avait profondément ennuyée. Et puis là, j'écoute et puis je me rends compte que sans m'en être vraiment aperçue, je me suis mise debout, je commençais à gesticuler frénétiquement comme les gens dans la salle. Donc je me suis dit, tiens, bah, c'est que j'ai l'immodestie de penser que j'ai quand même un goût de vieux, c'est-à-dire un goût un peu sélectif, donc c'est que la qualité était là. Et puis j'envoyais des vidéos à Vincenzo en lui disant, mais regarde, regarde, c'est incroyable ce que je suis en train de vivre. Et je regardais autour de moi et c'est là que j'ai eu le choc, quand même vraiment le cerveau de sociologue s'est réveillé, le choc de voir que tous ces jeunes dans la salle qui était pleine, donc c'était Bercy, c'est quand même pas une toute petite salle, chantaient en coréen. Parce qu'à l'époque, BTS chantait en coréen, ce qui n'est pas le cas là, ils chantent en anglais. Hein. Et là, je me suis dit, mince, il se passe quelque chose, parce que dans cette salle, il n'y avait pas des milliers d'enfants de Coréens ou de Coréens eux-mêmes. Il y avait la France telle qu'elle est, c'est-à-dire vous, moi, nos enfants, nos voisins, etc. Et donc, j'écrivais à Vincenzo de manière frénétique, mais c'est incroyable cette chose qui est en train de se passer. Et donc, on a pris cet objet-là pour prolonger nos travaux précédents, en fait, comme objet d'étude.
Alors, comment vous en êtes venu après à approfondir ce sujet de la K-pop? Parce que je le disais, la K-pop, c'est pas que de la musique. On y vient d'abord peut-être par la musique, c'est ce qui se transmet, ce qui se diffuse le plus facilement mondialement. Mais vous parlez de l'aliu, c'est ça? Qu'est-ce que c'est que l'aliu, Vincenzo Cicchelli?
En fait, c'est un mot chinois qui veut dire vague coréenne. Et pourquoi chinois? Parce que les Chinois étaient les premiers à subir cette vague. C'était la fin des années 90. Des journalistes chinois se sont rendus compte que les jeunes chinois écoutaient une musique qui venait de Corée, étonnamment, et donc on appelait ça la vague coréenne. Et vous avez raison de dire que ce n'est pas que de la chanson, donc la K-pop, il y a aussi le reste. À l'époque, à peu près 2002, il y a un K-drama, donc une série télé coréenne, qui fait beaucoup de bruit, ça s'appelle le Winter Sonata, exporté, arrive au Japon. Et les Japonais s'étonnent de voir une série télé produite par un pays qui n'avait jamais exporté de série télé, et surtout une série télé qui fait un tabac auprès des femmes d'âge mûr, c'est-à-dire au-delà de cinquantaine, qui tombent amoureuses d'un jeune homme, le protagoniste de l'époque, et c'était la première fois qu'au Japon, on valorisait une beauté, une masculinité qui n'était pas ni occidentale ni japonaise, mais venant d'un pays qui était l'ancien pays colonisé. Donc vous imaginez cet impact, et ça commençait à faire du bruit. C'était les premières vagues, donc les pays voisins, la Chine, le Japon, et après le reste de l'Asie, de l'Est et Sud-Est. Alors on explique à l'époque, c'est normal, c'est les pays voisins, c'est comme si une série télé italienne avait succès
en France,
en Espagne, en Grèce ou en Tunisie. C'est normal.
On pensait que c'était une ère culturelle.
C'est ce qu'on disait à l'époque. On parlait de proximité culturelle.
Ouais.
Et en fait, c'est pas vrai du tout parce que une fois que cette vague a vraiment conquis l'Asie de l'Est, c'était le tour du reste du monde. Et on pourrait faire l'historique. Donc l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, Proche-Orient, Afrique du Nord, Europe. Et l'Afrique maintenant. Oui, c'est une vague vraiment globale.
Et ça s'est passé comment, en fait? En combien d'étapes? Ça a commencé, vous l'avez dit, par l'Asie. Après, ça s'est diffusé. On était à peu près à quel moment, en fait? À quelle période? Et qu'est-ce qui, selon vous, explique ce succès mondial, cette diffusion d'une telle pop culturelle qui appartient au départ à la Corée du Sud?
La première vague a trait à la géométrie variable des industries culturelles. C'est-à-dire que les produits coréens se sont exportés chez ces grands voisins qui avaient des niveaux de vie supérieurs, des capacités d'achat supérieures, parce qu'ils faisaient des produits de qualité pas chers. De la même manière qu'en France, on a acheté du manga dans les années 70, c'était du produit qu'on croyait pour enfants pas cher. En fait, c'était pas forcément pour enfants,
mais ça restait pas cher.
Mais ça, c'est dans la logique des industries culturelles telles qu'elles se vivent avec des maisons de production, des maisons qui achètent, etc. La deuxième vague, c'est au tournant des années 2010, elle s'est beaucoup fait sur les réseaux sociaux et dans les échanges de pair à pair, elle a quasi échappé au démarrage aux industries culturelles, en tout cas aux médias, aux gatekeepers et aux diffuseurs. Il était avant Psy, le Gangnam Style de Psy, nous n'écoutions pas à la radio de K-pop. Il y a eu cette émergence en 2012 de Psy, puis c'est retombé complètement parce qu'on n'en a plus entendu, alors que ça circulait déjà énormément dans des groupes de fans qui, pour la K-pop, se passaient les infos, etc. Et puis pour les K-dramas, les sous-titraient sur des plateformes illégales certaines, légales d'autres. Donc il y a eu un vrai travail des fans qui ont contribué très fortement à la diffusion de cette culture, ce qui fait qu'aujourd'hui encore, ce qui frappe quand on regarde le succès des groupes, si on reprend BTS, c'en est un exemple emblématique, C'est l'intrication extrêmement étroite avec les fans. Ils leur parlent, enfin, jusqu'à avant qu'ils se séparent, c'était pluri-quotidiennement. Maintenant qu'ils sont en pause, ils continuent. Hein, celui qui
donc
est parti,
les BTS sont en pause, c'est ça?
Ils sont en pause, oui, parce qu'ils doivent faire leur s'acquitter de leur service militaire qui est obligatoire en Corée, puisque c'est un pays qui est encore en guerre. Il y a encore une conscription qui dure 18 mois pour les garçons. Et donc, ils ont un système d'échange et de proximité culturelle avec les fans via les technologies numériques extrêmement intense, extrêmement serré.
Donc, c'est ça qui explique, selon vous, le succès, en fait, de cette vague coréenne, ou est-ce qu'il y a peut-être des éléments esthétiques qui plaisent au-delà des frontières, Vincenzo Schicchelli?
Absolument. Je pense que c'est le mot qu'il faut utiliser. En fait, la Hallyu est un peu à l'image du capitalisme contemporain, que certains appellent esthétique. C'est-à-dire qu'il produit des marchandises esthétiques. C'est quoi une marchandise esthétique? C'est une marchandise qui remplit une fonction fondamentale, celle de pouvoir s'exprimer. C'est l'expression de soi, de son goût, de ce qu'on est. Et pour que ça marche, évidemment, il faut une industrie culturelle qui soit à la hauteur. Parce que pensez à notre public européen, mais on pourrait parler du public global. Nos jeunes sont vraiment accoutumés à des produits de très très haute qualité. Et ne serait-ce que par l'habitude à voir des séries télé américaines ou écouter de la musique pop-rock américaine britannique de très niveau.
Donc, mais c'est peu, on dit pas souvent ça quand même, qu'on est habitué. Voilà. Alors dites-le que la pop culture...
C'est des produits de très haute qualité.
Alors pourquoi?
Alors pourquoi? Parce que on pourrait prendre plusieurs critères. K-pop, c'est des artistes qui sont polyvalents, qui sont entraînés à la dure, qui savent chanter, ils savent danser, alors danser à plusieurs... Pas tout seul.
Ouais. Donc c'est des vraies chorégraphies, travaillées,
c'est ça qui fait un peu la différence par rapport à d'autres musiques. Mais évidemment, vous trouvez des bandes aussi aux États-Unis qui font ça. Mais dans la K-pop, c'est la règle. Dès le départ, disons les débuts des années 90, vous voyez déjà les ingrédients de la K-pop, c'est le fait de danser ensemble de façon très synchronisée en chantant. Donc voilà, ils savent danser, ils savent chanter. Beaucoup d'entre eux deviennent des acteurs professionnels. Ils passent d'un média à l'autre, ils sont même capables après d'animer des émissions. Dans le cadre des K-dramas, c'est le jeu d'acteur, excellent. Et aussi la qualité des scénarios. Alors vous voyez, si vous êtes habitué à avoir des choses de qualité venant des États-Unis, de la Grande-Bretagne, d'Italie, France, etc., il n'y a aucune raison de refuser ce qui vient d'ailleurs et qui est bien fait.
Sylvie Octave, vous voulez réagir?
Oui, il y a même un Américain qui avait écrit un livre là-dessus, justement, parce qu'on a tendance à penser que les produits des industries culturelles sont des produits de piètre qualité, en tout cas pas culturellement valides ou pas culturellement intéressants. Et il avait titré son livre de manière très rigolote « Everything bad is good for you ». En fait, tout ce qui est mauvais, en fait, ça vous apprend plein de choses. Tout simplement parce que le niveau de qualité entre le Starsky Hutch de mon enfance et la moindre série télé américaine d'aujourd'hui est sans commune mesure. Et là, les standards américains ont quand même établi des niveaux de qualité minimum auxquels on est habitué, y compris pour les critiquer. Les jeunes sont très critiques à cet égard. Aussi, d'ailleurs, ils ont un esprit critique très développé parce qu'ils sont capables. Ils connaissent en fait tous les trucs de la narration. Ils savent qu'il y a des indices qui vont être déposés dans les scénars, qu'il faut être très attentif parce que c'est comme ça qu'on peut deviner ce qui va se passer. Et ils sont très attentifs aussi et désireux d'être surpris. Et comme leur niveau d'attente, parce qu'ils ont déjà beaucoup vu de films, un patrimoine d'images et d'histoires immense en tête, pour être surpris, il faut aller encore plus dans la créativité. Donc ça, les Coréens, ils savent très bien faire.
Mais par exemple, ce qu'on a entendu, la chanson de BTS, c'est une chanson qui peut sembler un petit peu facile, un petit peu peut-être très travaillé dans la qualité, c'est-à-dire que le clip va être très travaillé, la chorégraphie aussi, les rythmiques, c'est-à-dire que ça suit une recette parfaite pour cartonner, mais est-ce que c'est de la bonne qualité au sens où on peut trouver les paroles un peu mièvres, on peut trouver que c'est trop facile, que c'est un peu nul, quoi?
Oui, je vous rappelle que quand les Beatles débarquent aux États-Unis, on disait exactement la même chose. Bon, c'est bien, c'est facile à écouter. Mais
donc, vous voulez dire que dans 40, 50 ans, on dirait que BTS, c'était génial.
Pas que dans 40, 50 ans. N'oublions pas que, si vous prenez Wikipédia, BTS, ils ont gagné des centaines de prix. Et c'est pas que de la vente. Donc, vous voyez, la critique suit à un moment. C'est la même chose pour Parasite. Parasite, c'est le seul film dans l'histoire américaine d'avoir gagné l'Oscar du meilleur film. Pas meilleur film étranger, meilleur film tout court. C'était jamais arrivé. Même pas au cinéma italien qui, à l'époque, gagnait beaucoup d'Oscars et qui aujourd'hui encore le pays qui a le plus d'Oscars, c'est l'Italie. Et pourtant, les Italiens n'avaient pas fait ça. Les Coréens l'ont fait. Vous prenez aussi l'exemple de Squid Game. Squid Game a raflé des prix Emmy Awards. Ils en ont eu 6 sur 12 nominations, dont meilleur acteur, meilleure série, meilleur second rôle. C'est énorme.
Mais je vais me faire l'avocat du diable. Je veux dire que, par exemple, les productions comme Parasite ou Squid Game sont extrêmement travaillées, alors que là, on a l'impression d'entendre une chanson qu'on a déjà entendue 100 000 fois.
Alors là, on est dans le jugement de goût, c'est très difficile à discuter. Qu'est-ce qui fait une grande chanson? Est-ce que c'est pas la capacité à vous devenir familière? Lady B, c'est d'une connerie monumentale. Sauf que ça rentre, et c'est génial.
Ouais.
Le génie, c'est pas forcément un truc absolument abscon. La pop, c'est... Faut rappeler ce que c'est que la pop. Le rock, comme le punk, c'est des musiques de revendication, de contestation. La pop, c'est... À la base, c'est une musique pour vous accompagner dans votre vie de tous les jours. C'est une musique qui doit s'approprier facilement. Mais le facilement, en fait, c'est très compliqué à réaliser.
C'est là où vous dites que c'est de la haute qualité.
Oui, et puis ça requiert des compétences qui viennent des quatre coins du monde. C'est de la pop fée avec des arrangeurs suédois, des mixeurs parfois français. Enfin bref, ils vont vraiment chercher les meilleurs dans tout pour faire un objet culturel. Je rechigne à dire produit, mais disons produit carrément, qui puisse plaire et rassembler au plus grand nombre. Et ça n'est pas forcément en faisant du facile qu'on arrive à faire ça.
Et puis, si je peux me permettre, là, on a pris un exemple. On aurait pu mettre, par exemple, Blackpink. Blackpink...
On va l'entendre tout à l'heure.
Extrêmement sophistiqué. Ou d'autres chansons des BTS qui sont extrêmement sophistiquées. C'était une chanson qui est sortie pour s'adresser au public, parce que Sylvie l'a dit, le lien entre les idols, c'est-à-dire les idoles des chansons et le public, est un lien symbiotique. C'est un lien puissant, très fort, quasi fusionnel. D'ailleurs, le mot « idol », ça veut dire ce que ça veut dire. C'est une forme d'idolâtrie. Et pour dire à leurs fans qu'il fallait se motiver pour tenir face à la pandémie, ils ont sorti cette chanson au titre emblématique « Dynamite ». On peut prendre d'autres exemples.
On va écouter tout de suite un extrait de Squid Game dont on vient de parler. Un exemple qui est familier sûrement aux auditeurs et aux auditrices qui, en tout cas, regardent Netflix.
Ya, 네, 저 뭐냐? 존나 이상하게 생겼네. 시발 대가리 존나 크다.
첫 번째 게임은 너스 포니에슈의 안드와 솔레. 보 pouvez bouger et avancer tant que je dirai 1, 2, 3 솔레. Si le moindre mouvement est détecté après, alors vous serez éliminé.
1, 2, 3 soleil, c'est une blague? Ils sont pas sérieux, là.
On parie sur qui finit premier?
Ceux et celles qui franchiront la ligne d'arrivée sans se faire attraper dans un temps imparti de 5 minutes passeront cette première manche. Attention, que le jeu commence!
Attention, 1, 2, 3
T'es fait avoir, crétin. Hein? Hey, t'as été éliminé, pauvre crétin. Arrête ton cinéma et lève-toi.
Génial, série Squid Game diffusée sur Netflix, série de Wang Dong-hyuk qui a réuni, je sais pas, des millions, des milliards de téléspectateurs à travers le monde. Là, on est dans la production donc Hallyu, mais on n'est pas du tout dans un monde acidulé pop. Là, il y a quelque chose de l'ordre des valeurs qui est beaucoup plus dur. Est-ce que c'est ça aussi l'Hallyu? C'est un mélange en fait un peu contradictoire entre la radicalité de la vie, la violence, mais aussi des valeurs feel good, de fraternité, d'amour de soi, où on prend soin les uns des autres. Sylvie Octobre.
Oui, d'autant plus que cette vague est en train, avec le temps, de mûrir. C'est-à-dire les premiers produits qui se sont exportés, c'était les produits qui étaient les plus positifs dans les valeurs, parce que d'abord, on le redit, comme Vincenzo l'a souligné, ça s'exportait d'abord en Asie, qui a vraiment ce terreau confucéen donc de la communauté, le lien positif,
etc. La fraternité.
La fraternité, c'est très important. Et puis, au fil du succès de la vague, elle a enflé de par le monde, elle a mûri, elle s'est transformée. Il y a de plus en plus de production, donc elle sont de plus en plus diversifiées. Et Squid Game, par exemple, a été produit alors qu'il était dormant dans un tiroir depuis 10 ans. Parce que tout d'un coup, des capitaux sont arrivés massifs, et pas n'importe lesquels, c'est ceux de Netflix. Donc avec pas du tout ces problématiques confucéennes, et au contraire, Netflix, c'est quand même un offreur qui vient d'une partie du monde où nous sommes éminemment habitués à la violence, à la télévision. On nous en fait énormément, ça c'est tout le cinéma américain en est plein. Donc il y a effectivement maintenant une très très grande diversité qui est très difficile finalement à résumer dans ça serait que feel good ou ça serait que cela. L'intérêt et la subtilité, c'est qu'il y a de tout, mais que dans tous les cas, nous semble-t-il, il y a une éthique du lien qui est assez différente de l'éthique du lien à l'occidental. C'est-à-dire qu'on ne trouvera jamais, en tout cas dans ce qu'on a vu nous, de figure du self-made man solitaire qui arrive tout seul envers et contre tout et de manière disruptive, mais solitaire avant tout. On a des gens qui sont évidemment des individus, mais qui transforment ce qu'ils sont en transformant leur environnement, que c'est comme ça qu'ils s'en sortent, y compris s'il y a une part des situations dans lesquelles il faut qu'ils rompent avec ceux qui les accompagnent, mais c'est en reconfigurant le lien. C'est jamais contre l'environnement.
Vincenzo Cicchelli.
Oui, après c'est très difficile de savoir ce qui est lié à la société coréenne elle-même et au choix fait par les artistes. Hein. On n'arrivera jamais. Enfin,
et jusqu'où Netflix a peut-être aussi interféré dans cette mise en scène ou dans ce scénario
Exactement, ça on ne peut pas le savoir. Mais tout de même, il est clair que sans être un reflet de la réalité coréenne, c'est sûr que comme le premier public qui juge les séries télé, c'est le public coréen, au départ. Donc, il est clair que quelque part, il faut que le public se reconnaisse un petit peu, si vous voulez, dans ce qu'il voit. Après, vous savez pas si le fait de voir dans tous les K-dramas le garçon, parce qu'il pleut à un moment, il y a toujours une scène de pluie, et le garçon qui, d'un coup, sort le parapluie. Bon, on a fait cette scène aussi, nous aussi, quand on est à Séoul, pour rigoler. On ne sait pas si c'est la vérité ou c'est une topique des K-dramas. Oui. Mais en attendant, le public peut se reconnaître. S'il y a autant de tendresse, autant de pudeur, par exemple, dans les relations amoureuses, il n'y a aucune scène de sexe, le désir est à peine esquissé, c'est parce que si le public peut se reconnaître dans cela. Il n'y a jamais de scène de sexe parce que ça pourrait choquer. Le public coréen est habitué à ça, et puis il y a le public global. Alors, on peut se poser la question, est-ce que les scénaristes cherchent un public global? C'est quoi un public global?
Oui.
Et bah, apparemment, ils sont tout aussi surpris par le succès de leur production que par nous-mêmes. Disons qu'il y a quelque chose, sans doute, qui marche. C'est l'hypothèse que nous avons émise, Sylvie et moi. C'est qu'il en va des K-dramas comme il en va du reste des productions coréennes. Ça semble quelque chose d'alternatif. C'est quelque chose que...
Mais quelque chose qui est différent.
Qui est différent. Et c'est-à-dire que c'est...
Et c'est ça qui plaît. C'est-à-dire que c'est pas forcément, comme on l'a dit tout à l'heure, en termes esthétiques, telle chanson, tel message. Il y a quelque chose de... On voit un produit qui est issu d'une culture qui nous est étrangère.
Absolument. Mais tout en participant quand même de quelque chose d'universel. Parce que, vous faites passer à l'antenne des morceaux de K-pop. On aurait pu le faire avec de la musique traditionnelle coréenne.
Oui.
C'est très sympathique. Mais nous sommes si peu habitués à cette musique qu'on a du mal à la reconnaître et peut-être même à l'apprécier. Si on l'apprécie, c'est par goût de l'exotisme. Quand on écoute la K-pop, si on l'apprécie, ce n'est pas de l'exotisme. C'est qu'on reconnaît ça à l'intérieur d'un langage large, celui de la pop global, et en même temps avec une signature particulière dont on a évoqué les éléments tout à l'heure.
Sylvie Octobre, vous vouliez rebondir justement sur cette idée qu'on allait aimer aussi la K-pop ou tout ce qui en découle, la Liu, c'est-à-dire les K-dramas, les K-films, tout ça, parce qu'on a l'impression de pouvoir goûter à une culture qui nous est étrangère, mais en la comprenant quand même. C'est un savant mélange entre du commun et de l'altérité.
Oui, c'est exactement ça. En plus de toutes les qualités esthétiques indéniables qu'elle a, son attrait provient du fait qu'elle est différente, elle provient d'un endroit du monde différent et surtout qu'il y a un narratif de soi très particulier qui tient grosso modo, d'après ce que les fans en perçoivent et ce que nous, on a pu récupérer auprès d'eux en termes d'explication, qui tient à deux choses principales. La première, c'est un narratif d'un pays qui est un petit pays, qui n'a jamais été impérialiste, qui n'a jamais été colonisateur, qui est un espèce de victorieux de l'histoire envers et contre tout. Un ancien pays, enfin un pays qui, il y a 50 ans, faisait partie des pays en voie de développement, qui avait un niveau de PIB inférieur à celui du Maroc, qui est aujourd'hui la 7e ou la 12e puissance mondiale, en suivant les indicateurs dont on le considère, qui est devenu une puissance militaire, mais qui n'est pas du tout jouer sa place dans le monde de matière militaire. Donc c'est autre chose. C'est une espèce de promesse que même si on n'a pas toujours été du côté des gagnants de l'histoire, on peut avoir l'intelligence de s'en sortir et trouver une manière de donner des leçons aux anciens puissants. Ça, c'est extrêmement puissant, y compris dans nos sociétés où les questions postcoloniales, les questions des minorités ou les questions de l'intégration sont des questions qui nous travaillent. Deuxième chose, c'est le narratif a aussi une dimension culturelle extrêmement forte que d'ailleurs le gouvernement a largement soutenu, le gouvernement coréen, au-delà de la promotion de la Hallyu en tant que telle. C'est la promotion de la narration d'une nation qui a fait de la langue et de l'autonomie linguistique un de ses outils d'émancipation démocratique. Je m'explique. Au XVIe siècle, un roi de Corée décide de demander à ses érudits de créer un alphabet pour pouvoir écrire la langue coréenne qui se parlait, mais qui ne s'écrivait qu'avec l'usage des signes chinois ou japonais. Donc en fait, ça soumettait la culture coréenne à l'influence de ces deux précédents colonisateurs. Donc ce narratif, évidemment, était un petit peu, romancé, mais n'empêche que le fait historique est réel. Et donc, cet alphabet a été créé ex nihilo, il n'a pas d'antécédent particulier, il n'a pas de lien avec d'autres types d'alphabets, même si évidemment la langue, elle a des liens avec aussi bien le chinois que le japonais. Et ce narratif, c'est assez prégnant parce que chez les fans qu'on a rencontrés, qui ne sont pas forcément des érudits au sens des études orientales, c'est un fait qui est très bien passé dans l'information générale, en véhiculant l'idée que voilà, on a un pays qui est démocratique à sa manière depuis une période impériale, ce qui est une espèce de contresens, en tout cas dans les termes. Un roi se préoccupait de son peuple et que depuis lors, c'est un peuple qui a une forme d'émancipation qui passe par la culture. C'est du narratif. Le narratif, on peut tout à fait le déconstruire. Et nos amis des études orientales pourraient facilement le déconstruire. Mais il n'en reste pas moins qu'il est très opérant dans l'attraction de cette vague.
Donc ça veut dire que cette industrie globale de la K-pop, elle est à la fois presque inconsciente, elle dépasse les frontières de manière presque spontanée, et en même temps elle est très conscientisée, reprise, réfléchie, et elle est même véhiculée par le gouvernement sud-coréen qui va en faire un pouvoir revendiqué. L'idée, c'est d'avoir une influence non pas militaire, politique, sociale, mais culturelle.
Oui, c'est en fait, ça a été voulu, ça a été fortement désiré, planifié. C'est vers la première moitié des années 90 du siècle dernier que les élites coréennes se posent la question de rebondir et de faire partie du renouvellement du capitalisme. Et pas seulement en exportant d'industries lourdes, donc plutôt des voitures ou des navires. Donc comment s'adapter à un monde qui changeait? Et le coup de grâce a été la crise de 97 qui a relancé la question, mais comment continuer à exporter de façon durable et s'imposer sur la scène internationale comme autre chose qu'un peuple de travailleurs et besogneux? C'est ça l'image que donnait la Corée, comme un peu le Japon quelque part après la guerre. C'est-à-dire, c'est des gens qui travaillent beaucoup, mais en fait ils ne font que copier. Et souvenez-vous ce qu'on disait des Japonais jusqu'aux années 70-80, quand Sony devient un des leaders mondiaux dans l'innovation. Bon, maintenant, on ne peut plus dire ça de la Corée du Sud parce qu'ils ont Samsung. C'est l'entreprise qui fait rêver en termes d'innovation. Donc, tout ça, c'était planifié. Quand j'ai planifié, ça a été fait par l'administration, c'était fait par l'élite industrielle, mais ça a été fait aussi par le concours de la nation.
Chacun a été enrôlé, en fait, dans cette fonction de faire briller la Corée au-delà des frontières et en termes culturels.
Dès les années 60, les Coréens ont compris que c'était quelque chose qu'il fallait faire, c'était travailler dur, c'était même sous l'impulsion du gouvernement. C'était pas une démocratie à l'époque. Donc il fallait les inviter à travailler beaucoup. Ils l'ont fait. Mais il y a un autre facteur qu'on oublie, c'est l'investissement colossal dans l'éducation, dans l'école. C'est un pays très éduqué. Si vous prenez les enquêtes internationales, donc PISA, les Coréens sont en tête du classement avec les Scandinaves tous les ans. Alors, à quel prix? Bon. Vous le savez, on a derrière les statistiques qui montrent l'épuisement des jeunes, les taux de suicide, la forte compétition. Peu importe, c'est un pays d'ingénieurs, c'est un pays de créateurs. C'est, disons, les deux industries qui marchent aujourd'hui, l'industrie culturelle et puis pas la créativité et la haute technologie.
Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on fait une émission ou si vous avez écrit un livre sur la K-pop, c'est parce que c'était quelque chose qui avait été planifié en fait depuis 40 ans, 50 ans?
Non, il faut se garder d'avoir cette idée-là parce qu'en fait, on pourrait avoir...
Voilà, c'est en train de planifier qui est ambigu.
Oui, oui, alors non, c'est pas ça. En fait, Vincenzo a dit, et il a raison, qu'il y avait un problème, il y a la crise, une recomposition du capitalisme et la tentation de trouver d'autres types d'industries qui étaient très porteuses et dont on percevait qu'elles étaient encore plus porteuses avec probablement moins de risques. Concrètement, c'est moins coûteux de faire une industrie musicale que de faire une industrie de paquebot. Hein. Donc, c'est tout bête. Et les risques économiques sont moins grands aussi à se lancer. Donc, il y a eu ça. Il y a aussi la convergence du fait qu'on a commencé à entrer dans le secteur des nouvelles technologies et que, assez vite, les opérateurs ont compris que pour vendre des tuyaux, il faut vendre des contenus. Parce que ça va ensemble. C'est-à-dire, le tuyau tout vide, c'est pas là où on fait beaucoup de marge. On fait du marge sur les contenus, en fait. C'est ça, c'est les contenus qui y rendent attractifs. Donc, il y a ça. Et l'État n'a pas pu organiser ça. Il y a eu une convergence entre une population très diplômée, avec des créateurs qui arrivaient, avec aussi ce mouvement de libération qui a donné... Nous, on a eu la chance de rencontrer beaucoup de scénaristes qui ont tous dit... Après les mouvements étudiants de libération post-dictature, il y a eu une formidable effervescence créative dont ils sont toujours... ils sont toujours dedans, d'une certaine manière, même s'ils sont dans la deuxième vague, la deuxième génération. Et que ça, c'est très propice à voir émerger des nouvelles formes culturelles. Ce que l'État a fait de manière très intelligente, mais d'une certaine manière comme l'État français essaye de le faire dans ses politiques culturelles, c'est d'accompagner, soutenir, orienter et profiter d'eux. Alors évidemment, nous, ça nous paraît très bizarre que M. Macron, s'il allait négocier je ne sais quel traité aux États-Unis, il emmène Catherine Deneuve sous son bras. En fait, Catherine Deneuve, je ne suis même pas sûre que ce serait un bon exemple, elle est un peu trop âgée maintenant. Mais enfin, disons, une chanteuse pop actuelle, ouais. Parce que notre pop est peut-être très bonne, mais elle ne s'exporte quand même pas.
Genre Angèle, par exemple, elle est belge, donc ça ne marche pas non plus.
Ou je ne sais pas, j'en sais rien, on ne va pas donner de nom comme ça, on fâche personne.
Ouais.
C'est très différent en Asie, où... BTS, pour ne pas le nommer, ou même Blackpink, ont des telles surfaces de notoriété que se balader avec BTS, c'est profiter de la notoriété de BTS, très clairement, parce que le président coréen est moins connu que BTS.
On dépasse quand même la dimension culturelle pour arriver à une dimension politique. Et d'ailleurs, vous ne parlez pas de soft power, comme on a tendance à en parler pour les industries culturelles, vous parlez de sweet power. C'est quoi la différence, alors?
C'est... Le sweet power, c'est un soft power, mais typiquement coréen. Et c'est sans doute celui qui pourrait plaire à ces pays qui s'engagent dans cette voie et qui veulent émerger en essayant de montrer que leur message, ce qu'ils font passer, ne relève pas de la force militaire, de la conquête, de l'envie de s'imposer. Regardez un peu ce qui se passe en ce moment, où la confrontation entre les États-Unis et la Chine et ce qui caractérise la globalisation, ou carrément la force brutale, celle de la guerre en Ukraine. Donc, tous les pays qui essaient de prendre une voie alternative pour faire passer des messages passent par ce sweet power. Alors, c'est des contenus, c'est des messages qui renvoient à un passé qui n'est pas militaire, à une ambition qui n'est pas du tout de devenir impérialiste. Et en même temps, que vous prenez concrètement le contenu des K-dramas, ce que vous, les spectateurs regardent, ou des chansons, ce qu'on écoute, eh ben c'est des messages qui renvoient souvent à des choses toutes simples. C'est l'amour. Alors vous direz, mais l'amour, c'est un thème classique. Love me do, depuis les Beatles jusqu'à... Bien sûr, All you need is love. Mais dans ces chansons, devient un vecteur de quelque chose de beaucoup plus important. C'est pas seulement la relation avec l'autre, mais c'est une relation beaucoup plus universelle. Et ça passe par le respect de soi, par la question de la dignité, la question de s'aimer soi-même. C'est du feel good, c'est du well-being. Et ça parle de questions qui renvoient à la vie adolescente. Par exemple, l'harcèlement scolaire. Et pas simplement... Et c'est des choses qui pourraient paraître un peu niaises, mais en réalité, c'est une formidable caisse de résonance de toute une génération. C'est la raison pour laquelle les BTS se sont imposés auprès de générations globales. C'est-à-dire que quand vous prenez leurs fans et concrètement les chiffres de vente, on ne peut pas imaginer qu'ils sont localisés. Ils sont un peu partout. Et ce n'est pas vraiment tous les jours qu'on assiste à des phénomènes d'une telle ampleur. Je parle de BTS, mais Blackpink, l'autre jour, ils ont dépassé 2 milliards de vues sur YouTube. Une chanson qui est sortie en 2018, c'est colossal. C'est plus que les BTS, mais c'est loin de Psy. Psy, 10 ans après, parce que c'est sorti en 2012, j'ai vu l'autre jour, il est arrivé à 4 milliards et demi.
Vous parlez des Blackpink, on va justement écouter une chanson. Here I come.
Les lèvres à la coréenne qui dégradent et on se rebride un peu les yeux et on porte des masques. Et on essaye de s'habiller comme la K-pop et comme elle. On sait très bien que les jupes courtes c'est très bien vu là-bas, mais par contre les décolletés c'est pas du tout bien vu. On n'a pas le droit de sortir en couple avec les gens parce que c'est mal vu de sortir avec quelqu'un et s'embrasser. Et quand on n'a pas le droit de s'opposer à un avis sinon ça crée des tensions et c'est pas bien de s'engueuler avec les gens.
Mais vous apprenez le coréen un peu ?
Oui. On sait déjà dire bonjour, comment tu vas ? Annyeonghaseyo. On peut se présenter ? Lianida.
Quand vous pensez à vous dans 10 ans, vous vous imaginez comment ?
Bah, on est colocataire en Corée. Hein.
En attendant, elles dansent sur les chorégraphies de leur groupe préféré et continuent de vivre à l'heure de Séoul.
C'était un reportage le 20 août 2019 sur deux fans de K-pop. Est-ce que ces deux fans ressemblent à celles que vous avez rencontrées pour votre livre, Sylvie Octobre et Vincenzo Cicchelli ? L'un ou l'autre, Vincenzo, allez-y.
Bah, à s'y méprendre. On aurait pu interroger nous-mêmes et avoir les mêmes réponses. Ce n'est pas très étonnant. C'est une culture très pervasive. C'est-à-dire que quand on tombe dans la Hallyu, on y tombe vraiment et on consomme le tout. Parce que c'est pensé
la
comme
langue,
ça.
La langue, les chorégraphies, les habits.
La nourriture.
Mais même les valeurs quand même qui sont promues, elles sont assez rigides. C'est-à-dire, bon, ne pas se disputer, pourquoi pas. C'est-à-dire que ça peut être effectivement une valeur de paix, de convivialité, mais ça devient un interdit de la même manière, ne pas se tenir à côté de quelqu'un. Enfin, c'est quand même une morale qui peut sembler un petit peu contraignante.
Oui, alors après, là, c'est leur interprétation. Ce qu'on voit très clairement, c'est que les rapports de genre sont moins explicites. On a passé pas mal de temps en Corée. On voit des couples qui se tiennent la main. Ils ont même des démonstrations d'affection qui sont absolument charmantes. C'est-à-dire, le truc qu'on voit dans les films où le mec prend le sac de la fille, ils le font vraiment. Enfin, je veux dire, nous, on était même un peu surpris parce qu'on pensait vraiment que c'était un truc de scénariste. Et en fait, non, dans la rue, ils font tout ça. Donc, à un moment donné, je dis à Vincenzo, tu vas prendre mon sac. T'es pas mon amoureux, mais tu vas prendre mon sac quand même, sinon moi je suis la seule à porter mon sac. Donc
j'ai
ça
fait
va
le
pas.
Coup du parapluie quand même.
Et tu m'as fait le coup du parapluie.
Donc le coup du parapluie, la scène,
on venait d'arriver tout le temps, sous tout la d'un pluie. Coup, pluie terrible. Alors c'est le même soir qu'on était là, fatigué, 24 heures de voyage. Et puis d'un coup, il se met à pleuvoir, sorti du restaurant. Et là, je vois un combini en face et je me jette en faisant un vol plané. Je me retourne avec un parapluie. Bon, voilà, elle a eu sa scène de K-drama.
Oui, donc il y a des choses comme ça qui sont... Et je pense que c'est attractif, notamment pour ces jeunes gens qui sont confrontée à une difficulté quand même. Le débat autour du genre est devenu tellement prégnant, il y a tellement de possibilités, il y a tellement d'acceptation de différences, tout ça est une bonne chose, mais ça rend la question plus complexe à affronter quand on ne sait pas encore qui on est et quand on est un jeune adolescent à faire des expériences. Donc c'est plus compliqué. Donc effectivement, d'avoir cette grammaire relationnelle où les choses sont suggérées, on sait que ça se passe, mais on n'est pas obligé de le voir, on n'a pas une dynamique acrobatique à l'américaine où il y a en gros deux positions pour faire l'amour qui sont, je vous les décrirai pas, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est deux perpendiculaires, soit allongés, soit debout. Il n'y a pas, donc en fait, on peut imaginer des choses. Ça rend à chacun aussi un tout petit peu d'espace de liberté. Ce n'est pas forcément plus rigide, en fait, d'une certaine manière.
Vincenzo Schicchini.
Oui, en fait, pour nous, c'est une véritable alternative à ce qui est, disons, produit depuis quelques années par la grande industrie culturelle américaine, qui a été hégémonique et qui garde une place dominante, mais qui n'est plus hégémonique. Bah, vous savez, toute forme culturelle, à un moment, quand elle devient hégémonique, elle produit aussi des formes d'un peu de résistance, de rejet et d'accoutumance. Il y a quelque chose qui se passe avec le produit culturel américain qui continue d'exercer vraiment un attrait important, ne serait-ce qu'en termes de vente. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus quand on a tourné un film comme Joker ? Un film comme Joker qui représente peut-être le sommet du nihilisme. Pas du cynisme, mais du nihilisme, de l'absence de valeur dans laquelle l'amour n'existe pas parce que c'est l'amour qu'on voit, celui d'une mère vis-à-vis d'un fils, produit un psychopathe. Et la seule fille qui s'intéresse à cet homme, très probablement, elle va mourir. Enfin, c'est ce qu'on croit. Voilà. Non, on ne peut pas aller plus loin que ça. Donc, il y a une forme de saturation à l'égard de ce discours dans lequel, aujourd'hui, la seule façon de parler de la société, c'est de le faire de cette façon nihiliste. Alors, Joker, c'est le sommet, mais beaucoup de films américains et de productions américaines sont faites comme ça. Game of Thrones, je pense à plein de choses.
Black Mirror.
Bon, voilà, même sur la démocratie américaine, il y a eu des choses qui ont montré combien les États-Unis, à quelque part, deviennent de plus en plus une dystopie. Alors, cette façon de représenter la société américaine comme une dystopie peut produire une forme de saturation, la servante écarlate. Et pour le coup, là, vous avez une alternative qui n'est pas niaise. Parce que toutes les séries télé montrent les difficultés réelles de la société coréenne. Ne les esquivent pas. Parce qu'en face, vous avez quand même un public de gens qui sont tellement habitués à voir la réalité, l'hyper-réalisme des productions occidentales, qu'ils ne peuvent pas tomber non plus dans son contraire. Et en fait, ça n'esquive pas toutes les difficultés, mais ça montre, comme disait Sylvie, que le lien se construit autrement, non pas en rompant le cassant, mais en y travaillant sans cesse pour faire en sorte que l'individu s'exprime, lui et le collectif, de façon peut-être plus harmonieuse.
Donc il y a une éthique du lien dont vous avez parlé tout à l'heure, Sylvie Octobre, qu'on trouve dans les productions de K-pop, de l'ALU. Il vous parlait d'empowerment, donc cette manière en fait pour l'individu de trouver les forces en lui pour se libérer, ce qui semble presque un petit peu contradictoire, c'est-à-dire cette éthique du lien et en même temps cette valorisation de l'individu à travers l'empowerment, Sylvie Octobre.
Mais parce que nous réfléchissons dans les termes dans lesquels on nous a appris à réfléchir, c'est l'individu.
Et puis des dichotomies
et diviser des autres. Ouais. On s'arrache. Enfin, c'est tout ce qu'on raconte, même en sociologie, sur l'autonomie, comme prise en distance par rapport au lien, comme libération, ta. C'est pas du tout comme ça qu'ils voient les choses. Non pas qu'une manière soit meilleure que l'autre. C'est juste que c'est deux manières historiquement et géographiquement situées de construire l'image de l'individu. L'individu, je le redis, pardon si je me répète, ne se construit et ne se libère lui-même qu'en emmenant les autres dans sa transformation. Ce qui est complètement différent avec notre manière de faire.
Nous, on est avec le registre des héros.
Exactement.
De l'individuation, de l'individualité.
Exactement. Et là, il n'y a pas tellement en fait, de héros. Il y a des gens qui sont pris dans des collectifs. Et en fait, tous les K-dramas, même tous les films, même les plus durs, même dans Parasite, ça parle d'un collectif et des dynamiques d'un collectif. Il n'y a pas un héros dans Parasite, d'une certaine manière.
Oui,
dans les K-dramas, il y a évidemment un personnage ou deux personnages principaux. Mais ce n'est jamais une figure héroïque au sens où il va surmonter des choses extraordinaires. Non, qu'est-ce qu'il fait ? Il chemine dans la vie. En fait, l'extraordinaire, c'est de cheminer dans la vie.
Et donc, par rapport à cette libération de l'individu, mais en communauté, est-ce que c'est aussi ce qui va plaire ? C'est-à-dire de se dire, on peut se figurer la politique ou le rapport à l'autre d'une autre manière que l'individu face à la société ou alors un collectif un peu flou dans lequel je me sens noyé. Vincenzo Schicchini.
Oui, en fait, il y a une partie de notre jeunesse qui ne supporte plus cette degré de compétition qui mène un jeu à somme nulle. C'est soit moi, soit l'autre. Ce qui est intéressant avec la production coréenne, c'est moi et les autres, tous ensemble. Donc, ouais, dans ce point de vue-là, c'est une alternative qui reste assez crédible. Et n'oublions pas non plus que En fait, nous continuons de penser que nos valeurs à nous sont celles qui régissent le monde. Bon, il a fallu passer par la Coupe du Monde au Qatar pour se rendre compte que ce n'est pas vrai. Qu'il y a d'autres pays, d'autres cultures qui revendiquent que leurs propres valeurs soient reconnues. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, on a des dizaines de nos étudiants et étudiantes qui disent « il y en a marre de voir des séries télé où il n'y a que du sexe, la pudeur, ce n'est pas quelque chose pour les nier, c'est une valeur ». Moi, par mon éducation, j'ai été élevé à une vision très pudique des relations entre les hommes et les femmes. Je veux voir ça à la télé. Alors que si je regarde les séries télé françaises, américaines ou britanniques, ben, je ne veux pas ça. Donc, il y a un véritable décentrement qui est en train de s'opérer. Nous vivons dans un monde qui se veut inclusif, dans le sens propre du terme. Et alors, la production culturelle Aliou propose cette forme d'inclusivité, c'est-à-dire des valeurs qui peuvent plaire aux Occidentaux, mais aussi au Proche-Orient. Ça se vend très bien. En Afrique du Nord, ça se vend bien. En Afrique subsaharienne. Il y a des populations qui peuvent se reconnaître dans quelque chose qui ne ressemble pas tout à fait à ce que nous savons faire.
D'où l'on voit aussi le rôle des fans, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment presque à égalité. Quand vous parliez des idoles, ce n'est pas les stars qui sont individualisées. On voit bien que c'est une culture qui est fondée quand même sur la sérialité. Il y a des produits, les objets en fait sont produits en série, mais avec des individus qui n'en sont pas. Ce sont des groupes. D'ailleurs, les groupes de K-pop, c'est plusieurs membres. Il y a jusqu'à 20 membres. Donc, on voit bien, en fait, qu'il y a une sorte de valorisation de ce lien multiple, Sylvie Octobre.
Oui, oui, et qui favorise un discours sur, sur l'inclusion qui est relativement nouveau. Je vais en prendre un exemple. Vous avez probablement en tête le film The Eternals, qui est un Marvel, un blockbuster récent. En gros, c'est des super-héros, ils sont éternels, comme le nom l'indique, ils ne peuvent pas mourir et ils viennent sur Terre pour protéger la Terre de grands méchants qui, à un moment donné, vont forcément réapparaître. Le pitch est tout à fait classique. Mais là où, pour la première fois, c'est un film choral. Il y a plein de super-héros qui ne sont pas dans une relation hiérarchique les uns aux autres, en tout cas pas nettement, à la différence de ce qui peut se passer dans les... quand on a d'autres types de Marvel, notamment les Batman versus Superman. Ces héros sont incarnés par des personnages, des personnalités, des acteurs qui représentent, parce qu'ils en sont issus, différentes populations du monde. Donc, pour le faire vite, un black, un blanc, un amérindien, etc., etc. Et puis, il y a des suggestions de minorités de genre aussi qui ne sont pas très, très précisées, mais enfin, on comprend des choses si on prend un petit peu garde. Et puis, dans ce Marvel, à un moment donné, il y a un personnage indien qui est figuré par un acteur indien qui lui-même joue le rôle d'un acteur indien. C'est-à-dire sa couverture, c'est d'être un acteur. Et qui se passe à Bollywood. Donc, c'est particulièrement intéressant parce que c'est Hollywood citant Bollywood, Bollywood étant le premier marché mondial du film. Donc, on voit bien, l'inclusivité, elle est là. Donc, très clairement, il s'adresse à tout le marché du film de Bollywood. Et cet acteur, ce personnage, pardon, à un moment donné, dit dans le film à un de ses corlégionnaires, qui lui dit qu'il est très célèbre. Oui, lui répond-il, je suis très célèbre, mais je suis beaucoup moins célèbre que BTS. Il n'y a aucune référence autrement à BTS dans le film, qui par ailleurs fait une des musiques du film, si ce n'est cet échange qui n'a aucune nécessité scénaristique, mais aucune, qui est juste un message pour envoyer. Je m'adresse aussi au public d'Asie, au public qui sont couverts par BTS, qui sont en Asie, et aussi les publics des jeunes qui, de toute façon, seraient récupérés parce que c'est un Marvel qui est pour eux. Et ça nous a frappés parce que c'est un discours très inclusif. Et nous, c'est une question qu'on s'est posée quand on a travaillé auprès des fans, qui était une interrogation probablement venue du fait qu'on est des sociologues de l'Ouest, de dire, finalement, les groupes, ils ne sont pas très inclusifs dans ce qu'ils présentent, qu'ils sont tous beaux, ils sont tous coréens, ils se ressemblent de l'extérieur, alors même s'ils sont très différents. Qu'est-ce que ça d'inclusif, alors même que nous sommes habitués à une version de l'inclusion qui est une version
diversifiée
et on coche des cases, quoi.
Ouais.
On veut ce que je veux dire. On énumère, en tout cas. Ce qui est une manière de dire que le discours universel ne marche plus spontanément. Il faut l'incarner de manière diversifiée. Et quand on posait la question aux fans, ils disaient, mais c'est pas du tout ça la diversité. C'est pas montrer un jaune, un blanc, un rouge, un truc, parce que de toute façon, on est dans une époque où il y a tant de catégories qu'on va jamais y arriver. Non, c'est nous parler de quelque chose qui peut nous toucher tous. Et c'est ça qu'ils arrivent à faire avec leur message. Et c'est ça qui nous a semblé extrêmement intéressant à analyser en termes d'empowerment, c'est-à-dire, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'ils font avec ce message qui les touche? En quoi ça leur donne de la force? En quoi ça leur donne des ressources? En quoi ça leur donne confiance? En quoi éventuellement ça peut nourrir pour eux des projets de vie réels, fantasmés? Peu importe, on a tous des fantasmes quand on a 20 ans, c'est ça qui nous pousse en avant. Et ça a été extrêmement intéressant à regarder, et c'est ce que nous avons essayé de faire dans la deuxième partie de cet ouvrage.
Mais là, vous décrivez en fait l'effet positif que les objets culturels de la K-pop ont sur ces consommateurs. Mais il y a aussi quand même tout un système industriel qui est extrêmement rodé, qui est strictement contrôlé. C'est-à-dire que les chanteurs, les acteurs de la K-pop, ils ont leur image qui est contrôlée, ils ont une apparence, ils sont mesurés en permanence. C'est quand même une société du contrôle qui promeut peut-être des valeurs de diversité, d'inclusion, et qui quand même surveille chacun de ces figures comme si c'était leur propre produit. Vincenzo Chicali.
En fait, toute lune a son dark side.
Voilà.
Dark side. Mais, eh ben, l'industrie culturelle coréenne et non coréenne, là, ben, les fans le savent. Les consommateurs le savent. C'est des gens qui s'instruisent. On l'a vu dans les extraits qu'on a tenus tout à l'heure. Ils savent des choses parce que, tout simplement, ils ne passent pas que par la consommation culturelle, par les produits, l'image qu'on veut bien donner. Ils passent aussi par le biais d'Internet, des documentaires. Certains sont rendus en Corée. Alors, un des exemples forts du soft power, de l'impact, c'est que la Corée devient une attraction touristique, comme le Japon a pu l'être à partir des années 2000. Avant, c'était plutôt une destination happy few, parce que c'était cher, et puis c'était pour les gens, les élites. Alors, les fans le savent, et ils font la différence. Ils savent distinguer. Bon, nous, dans le livre, on a analysé, c'est une forme particulière de capitalisme. Parce que tout à l'heure, on a parlé de sweet power. C'est le soft power à la coréenne, mais il y a aussi un capitalisme esthétique à la coréenne, qui est ce capitalisme de l'entertainment. Mais en quelque part, si vous voulez, il fallait que les Coréens inventent quelque chose de nouveau, comme les Japonais l'ont fait avec Toyota. Toyota est à l'automobile ce que est l'entertainment à l'industrie culturelle. Une forme très particulière de...
Donc il y a un nouveau mode d'instruction.
Un nouveau mode. Toyota était le succès du Japon, c'était le modèle alternatif au Fordisme, tout en s'en inspirant, eh ben, l'entertainment capitalisme est une formule coréenne qui fait partie de l'ensemble beaucoup plus large.
Parce qu'en fait, le système de contrôle sur les idoles ou sur les stars, il existe aussi aux États-Unis. Comme Miley Cyrus faire des dérapages, ce sont des dérapages extrêmement utilisés. Si ce n'est contrôlé, j'en sais rien, je ne suis pas dans sa tête. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est du point de vue des fans, l'idée que tout est mesuré, tout est pensé, ne les choque pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils retiennent qu'on ne leur propose pas le même discours. D'un côté, on leur propose un discours de la disruption permanente. Alors, la famille Kardashian, Miley Cyrus, de l'hypersexualisation. D'une certaine manière, de l'émancipation féminine par la revendication de l'hypersexualisation de son propre corps. Ce qui est une manière de le faire, ce qui n'est pas toutes les manières de le faire. Quand on voit Nicki Minaj twerker, et qu'elle, enfin, on connaît la fameuse séquence où elle se met sur les genoux d'un rappeur et qu'elle le fait bander en public et le mec ne sait plus où se foutre. Et ça, c'est de l'empowerment féminin. C'est une manière de le voir. Pourquoi pas ? Moi, je n'ai pas de jugement moral. Simplement, ce qu'on a retenu, nous, dans les entretiens, c'est que les jeunes, ils sont en attente d'autres choses, notamment les jeunes filles.
D'autres représentations, d'autres figures, d'autres rapports.
Voilà. Et donc, ce que ça leur propose, c'est des modèles dans lesquels ça passe pas par le rapport à la sexualisation. Par contre, ça passe par un rapport à la psychologisation des positions. En fait, tous ces gays dramas mettent en scène des jeunes femmes qui souvent sont les adjuvants à la motivation de transformation des jeunes hommes, qui amènent les jeunes hommes à parler, c'est-à-dire à venir sur les terrains qu'on appelle être le terrain féminin, pour aller vite, qui appellent les jeunes hommes à accompagner les transformations ensemble. Et ça, c'est une autre manière de vivre l'empowerment, qui aussi sont des jeunes femmes, on le voit dans les K-dramas, qui passent dans le monde du travail, qui deviennent actives. Ce ne sont pas du tout des femmes qui seraient dans la position qu'on a connue dans la littérature occidentale, de la coucheuse de l'homme, mais qui se met ensuite à son...
La femme de l'ombre.
La femme de l'ombre. Ce n'est pas ça. C'est des femmes qui les mettent au travail et qui se mettent au travail psychologique et réel en même temps.
Vincenzo Chicali.
Alors, tout n'est pas prévu, bien évidemment, mais il y a des choses qui, après, sont... C'est le bonheur des effets non voulus, non planifiés. Par exemple, cette insistance, cette mise en scène de l'éthique du travail à la coréenne, comme font les pays asiatiques, ben, ça marche. Parce que, on a dit tout à l'heure, il y a ce lien très fort entre les fans et les idoles qui voient leur star, leur chanteur préféré, toujours en train de s'entraîner, des heures et des heures d'entraînement. Même quand ils sont fatigués, ils montrent qu'ils sont fatigués, mais quand même ils essaient d'améliorer et ils les suivent toujours. Bon, ces séances d'entraînement finalement donnent une image positive parce qu'on se rend compte que bien sûr qu'il y a du talent, mais on n'y arrive pas les efforts. Voilà, l'image de l'effort renvoie à quelque chose de beaucoup plus démocratique que le talent, parce que tout le monde n'est pas John Lennon, Tout le monde ne sait pas écrire comme Bob Dylan. Or, précisément, à part les biographes et les fans absolus, personne ne sait comment Bob Dylan est devenu le génie absolu qui a eu même le prix Nobel. On ne le dit pas.
Même
on
lui, oublie... il ne le sait pas, sûrement.
On ne le sait pas, alors que c'est quelqu'un qui a appris. On oublie qu'il a appris énormément, parce qu'à New York, là, il apprenait, il a rencontré des personnes qui lui ont aussi appris à faire des choses. Ça, on le sait, mais c'est les biographes qui le savent. On oublie que les Beatles étaient des bosseurs absolus, alors qu'on parle d'eux comme le talent pur. Paul McCartney, c'est le talent pur. Non, ce n'est pas vrai. Paul McCartney, c'est le talent plus le travail colossal. Alors, ce que donne, c'est que l'image que l'on a de K-pop, c'est le travail sur soi, y compris en passant par la chirurgie esthétique.
C'est une totale transparence, c'est-à-dire, voilà les difficultés que vous pouvez rencontrer dans vos relations, dans le travail. Comment réussir ?
Voilà comment réussir. C'est, comme, si vous voulez, quand on, c'est des industries culturelles qui se font vraiment sur une stratégie de marketing très très forte. Tout ça est fait au vu au su. Les contrats, on sait que c'est des contrats complexes, on sait que c'est des séances d'entraînement et le travail. Bon, voilà, donc du coup, finalement, il n'y a pas cette séparation entre le talent et puis le travail que nous avons ici, chez nous.
J'aimerais, on n'aura pas le temps d'écouter cette archive, mais je voulais qu'on revienne quand même sur l'engagement politique de la communauté fan de K-pop, qui quand même a permis en 2020, enfin à réserver des places lors d'un meeting de Donald Trump, et n'y a jamais été, et donc a participé à l'échec de ce meeting. C'était en 2020. Cette communauté qui est morale, qui est transnationale, qui n'est pas politisée, mais qui véhicule quand même des valeurs politiques, elle s'engage en fait. Elle est beaucoup plus politique qu'elle ne le dit, Sylvie Octobre.
Elle est en fait très politique sur le plan des valeurs, mais pas du tout politique sur le plan de l'engagement politicien.
Et partisan.
Mais voilà, partisan. Ouais. Mais elle est effectivement très politique sur les valeurs et d'une puissance assez impressionnante parce que vous l'avez dit, elle est transnationale et elle est hyper organisée. C'est-à-dire que les groupes de K-pop ont des fandoms qui sont hyper organisés depuis très longtemps, parce que je vous l'ai dit...
On appelle ça même l'ARMY dans le cas de la communauté des fans de BTS.
Oui, alors c'est un jeu de mots parce que ça veut dire Adorable Representative of the Youth, donc en fait c'est un truc qui devrait être très doux, sauf que l'acronyme le devient moins. Tous les acronymes d'ailleurs des grands fandoms de K-pop parlent d'amour, de friendship, de everlasting friend, enfin des trucs comme ça. Bref, c'est un lien très fort, qui est mis en scène comme étant très fort, qui est transnational, donc extrêmement puissant, qui est basé sur le partage de valeurs, mais au niveau le plus abstrait possible, c'est-à-dire la bienveillance, l'inclusivité, etc. Donc, ce qui est très rassembleur. Et ce qui a été très, très impressionnant dans cette histoire de meeting de Trump, c'est qu'évidemment, ça s'est fait en l'absence totale ni d'injonction de la part du groupe, ni de contrôle de la preuve du groupe. Ils ont même été un petit peu embêtés de voir quelle puissance avait eu. Même chose s'est passée au moment des émeutes post-George Floyd, puisque c'est le fandom qui s'est auto-saisi pour faire du fundraising et ils ont ramassé énormément d'argent en 48 heures, à tel point que là, comme on était sur une cause noble et non politique, le groupe BTS a dit après « Oui, mais nous aussi, on voulait donner, on va donner autant. » En fait, mais je pense qu'ils ont juste rattrapé la balle au bon.
Merci beaucoup à vous deux, Sylvie Octobre et Vincenzo Schicchelli. De vous, on peut donc lire K-pop, Soft Power et Culture Globale. C'est disponible aux éditions PUF. Et j'en profite pour signaler qu'il y a un concert de Jackson Wang, membre du boys band sud-coréen GOT7. C'est au Zénith de Paris les 15 et 16 janvier. Merci beaucoup à vous deux.
Merci beaucoup.
Merci.
Listen, boy. My first love story.
Et merci à l'équipe de Sans Oser le Demander, Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troiano, Cyril Marchand, Laure Dallest, réalisation Nicolas Berger, prise de son Grégory Wallon. On se retrouve sur les réseaux Twitter, Instagram, bien sûr sur le site de France Culture, à la page Sans Oser le Demander ou encore sur l'application à Radio France.